Chapitre 10. Trouver sa voie pour s'exprimer. Une idée désire être partagée. Et dans ce partage, elle devient plus complexe, plus intéressante et davantage susceptible de toucher un plus grand nombre de personnes. Adrienne Mary Brown, écrivaine et activiste. Jusqu'à une période très récente, les connaissances étaient une vraie rareté, nichées dans des manuscrits difficiles à répliquer ou dans la tête d'érudits. Elles restaient inaccessibles au commun des mortels. Cependant, peu de gens s'en souciaient. Dans une large mesure, ils s'en passaient très bien dans leur vie et leur travail, étant donné que chacun contribuait avec sa force physique plutôt qu'avec ses idées. Mais en quelques décennies, en un clin d'œil à l'échelle historique, tout a changé. D'un coup, nous nous sommes tous retrouvés plongés dans un flot ininterrompu de données, continuellement actualisées et livrées à la vitesse de la lumière via un réseau de services intelligents devenu partie intégrante de nos existences. La nature même du travail en a été profondément bouleversée. La création de valeur n'est plus liée à la force de nos bras, mais à ce que nos cerveaux sont en mesure de produire. Nos connaissances sont devenues nos actifs les plus précieux et notre capacité à déployer notre attention une compétence primordiale. Parallèlement, nos instruments de travail sont devenus abstraits et immatériels, des briques d'idées, des enseignements tirés de choses apprises, des faits, des schémas conceptuels et des modèles mentaux. Notre défi n'est donc plus de trouver de l'information, bien au contraire. Comme nous l'avons vu en étudiant la divergence et la convergence, arriver à fermer le robinet pour pouvoir produire quelque chose est aujourd'hui compliqué. Tout changement dans notre façon d'interagir avec l'information requiert un changement dans notre manière de penser. Dans ce chapitre, nous verrons en quoi cela consiste et quelle impression cela produit. État d'esprit versus boîte à outils. La quête de l'application parfaite. Jusqu'à présent, nous avons surtout regardé quels outils acquérir pour bien gérer l'information. Cependant, au cours des années, j'ai remarqué que ce ne sont jamais ceux dont nous disposons qui nous freinent, mais notre état d'esprit. Peut-être avez-vous choisi ce livre audio parce que vous avez entendu parler de ce nouveau domaine appelé la gestion des connaissances personnelles, ou parce que vous cherchiez des conseils pour choisir une nouvelle application sympa de prise de notes. Ou peut-être avez-vous été séduit par l'idée d'apprendre de nouvelles techniques pour accroître votre productivité ou par l'approche systématique de la créativité que propose cet ouvrage. Quelle que soit votre motivation, tous ces chemins vous conduiront au même point dès lors que vous serez prêt à en suivre un. Ce que vous avez entrepris est un voyage de développement personnel. Il n'y a pas de séparation entre notre moi intérieur et notre vie numérique. Les croyances et attitudes qui modèlent notre façon de penser dans un contexte donné se manifestent inévitablement dans d'autres contextes. Notre relation fondamentale à l'information sous-tend les difficultés que nous pouvons connaître avec la productivité, la créativité et la performance. Elle s'est forgée au cours de notre éducation, à mesure que nous vivons des expériences inédites. Elle a été influencée par notre personnalité, notre façon d'apprendre, nos relations et nos gènes. Nous sommes conditionnés à réagir d'une certaine manière face à de nouvelles idées. Nous avons adopté une manière de traiter par défaut les informations reçues, que ce soit avec anticipation, peur, excitation, doute de soi ou un mélange de sentiments qui nous est propre. Cette attitude spontanée colore tous les aspects de notre vie. C'est la lunette à travers laquelle nous avons révisé nos cours et nos examens scolaires, ce qui nous a guidés dans notre recherche de métier et de carrière possible. En ce moment même, alors que vous écoutez ces mots, elle travaille en arrière-plan. Elle vous dit quoi penser de ce texte, comment interpréter ces informations et dans quelle mesure cela vous concerne. Notre manière de considérer l'information façonne en profondeur à la fois la façon dont nous voyons et comprenons le monde et celle dont nous nous figurons notre place en son sein. Notre succès et la reconnaissance professionnelle dont nous pouvons bénéficier dépendent de notre capacité à l'utiliser efficacement et à réfléchir de façon intelligente et rapide. Alors que la société se complexifie, cet accent mis sur l'intelligence individuelle ne fait que croître. La qualité de notre réflexion est devenue l'un des traits fondamentaux de notre identité, de notre réputation et de notre qualité de vie. Et nous sommes sans cesse poussés à en savoir plus pour pouvoir concrétiser nos buts et nos rêves. Et si je vous disais que tout ceci est faux ? La crainte que notre esprit ne soit pas assez puissant. Pour accomplir ces objectifs, je ne prétends pas que l'intelligence innée n'a pas d'importance, mais que plus vous surchargez votre cerveau biologique de demandes et de besoins, plus il risque d'être en souffrance et de vous rendre stressé et anxieux, comme si vous deviez jongler avec beaucoup trop de balles à la fois. Et plus votre cerveau s'efforce de réaliser de choses, de surmonter et de résoudre des problèmes, moins il vous reste de temps pour imaginer, créer et simplement profiter de la vie. À mesure que vous intégrerez votre second cerveau à votre vie, votre attitude fondamentale à l'égard de l'information changera. Vous commencerez à voir des connexions dans le domaine professionnel, la psychologie et la technologie qui vous auront jusqu'alors complètement échappé et qui donneront naissance à de nouvelles idées jamais envisagées consciemment. Des leçons tirés du monde des affaires, de la philosophie et de l'histoire, s'entremêleront pour provoquer des épiphanies sur la façon dont le monde fonctionne. Tout naturellement, vous combinerez ces idées pour former de nouvelles perspectives, théories et stratégies. Vous serez émerveillé par l'élégance du système que vous aurez créé et par la manière presque mystérieuse dont il arrive à attirer votre attention sur les informations dont vous avez besoin. Peut-être que vous ne vous considérez pas comme un écrivain, un créateur ou un expert. C'était mon cas quand j'ai commencé à prendre des notes sur mon problème de santé. Mais une fois que vous verrez votre projet le plus ambitieux comme la somme de toutes les menues composantes informationnelles qui le constituent, vous comprendrez que n'importe quel enseignement ou expérience glanée de ci, de là, a potentiellement de la valeur. Vos peurs, vos doutes, vos erreurs, vos faux pas, vos échecs et vos autocritiques ne sont que de l'information à absorber, à digérer et à appréhender. Une participante à l'un de mes cours, Amélia, m'a récemment confié que le fait de se construire un second cerveau avait radicalement changé sa relation à Internet. Jusqu'alors, elle avait considéré cet espace comme sensationnaliste et offensant, et refuser d'interagir avec quelque communauté numérique que ce soit. Mais dès qu'elle a disposé d'un endroit où sauvegarder le meilleur d'Internet tout en laissant de côté tout ce qui ne lui servait pas, elle a commencé à voir cet espace sous un jour complètement nouveau. Amélia est une coach en leadership, chevronnée, qui apprend aux dirigeants à gérer leur système nerveux pour améliorer leur bien-être et leur efficacité. Imaginez le nombre de personnes supplémentaires qui peuvent maintenant bénéficier de son expertise depuis qu'elle considère Internet non plus comme une indésirable distraction, mais comme une source de sagesse et de connexion. Comment un tel changement radical peut-il se produire ? Amélia n'a pas appris quelque chose qu'elle ignorait auparavant, elle a adopté une nouvelle perspective. Elle a décidé de regarder le monde à travers une lunette différente, celle de l'évaluation et de l'abondance. On ne contrôle pas toujours ce qui nous arrive, mais on choisit le regard que l'on porte sur les choses. C'est ce pouvoir grossissant de notre attention qui nous permet de nous créer notre propre expérience lorsque nous décidons quels aspects de notre vie cultiver ou mettre en sourdine. Inévitablement, à mesure que vous construirez votre second cerveau, le biologique changera. Il s'adaptera à la présence de cet appendice technologique en le considérant comme une extension de lui-même. votre esprit s'apaisera et deviendra plus concentré, confiant que chaque idée sera dûment poursuivie et que toute réflexion mise de côté un moment sera bien sauvegardée. J'entends souvent dire que dès lors qu'ils ont conscience de disposer d'un système puissant qui amplifie chacune de leurs réalisations, les gens se mettent à croire pleinement en leurs objectifs et en leurs rêves, ainsi qu'aux changements qu'ils veulent opérer ou aux influences qu'ils veulent avoir sur le monde. Confiez une nouvelle mission à votre cerveau d'origine. Au lieu d'essayer d'optimiser votre cerveau biologique afin qu'il puisse administrer tous les menus détails de votre existence, nommez-le directeur de votre vie en lui confiant le soin d'orchestrer et de gérer le processus consistant à transformer l'information en résultat. Externalisez une partie de votre mémoire à votre second cerveau, toujours actif, infaillible et dont la capacité de stockage est illimitée, vous permettra d'intégrer et de faire résonner de nouvelles connaissances de manière plus créative. Ainsi, plus vous externaliserez et déléguerez à la technologie la captation, l'organisation et la distillation de vos contenus, plus vous aurez du temps et de l'énergie pour vous exprimer comme vous seul. Savez le faire. Une fois que la biologie ne constitue plus un goulet d'étranglement pour votre potentiel, vous serez libre d'augmenter votre influx d'informations sans craindre d'être submergé. Vous serez plus équilibré et rasséréné, car vous saurez que vous pouvez à tout moment vous extraire de ce fond, sauvegardé ailleurs que dans votre tête. Vous serez plus confiant, étant donné que vous aurez appris à vous reposer sur un système qui ne dépend pas de vous. Constater que vous n'êtes plus le seul responsable de tout ce dont vous devez vous rappeler dans votre vie sera à la fois extrêmement rassurant et une leçon d'humilité. Vous serez plus ouvert d'esprit, davantage prêt à envisager des idées moins orthodoxes ou abouties et plus stimulantes parce que vous disposerez d'un éventail d'alternatives à portée de main. Vous aurez envie d'être exposé à des perspectives plus diverses, provenant d'un plus grand nombre d'individus sans devoir nécessairement en adopter une. Tel un conservateur de musée, vous choisirez les croyances et les concepts qui vous serviront au mieux dans une situation donnée. Déléguer une tâche dont on a toujours eu la charge est intimidant. Vous vous demanderez s'il vous restera encore des choses à faire, si vous continuerez à être apprécié et jugé utile. On nous a appris qu'il vaut mieux avoir un rôle sûr que risquer d'être remplacé. Qu'il est plus prudent de garder la tête baissée et de ne pas faire de vagues que de chercher à obtenir quelque chose de mieux. Se vider la tête de ce fatras d'idées demande du courage, parce que sans nos pensées pour nous distraire, nous nous retrouvons confrontés à des questions inconfortables sur notre futur et nos missions. Voilà pourquoi se construire un second cerveau est une entreprise de développement personnel. À mesure que votre environnement informationnel changera, la façon dont votre esprit fonctionne évoluera. Vous laisserez derrière vous votre ancienne identité, pour en adopter une nouvelle qui fera de vous le chef de bord de votre vie, au lieu d'en être un simple passager. Tout changement de cet ordre peut faire peur. Vous ne savez pas vraiment qui vous allez devenir. Est-ce que cela vous fera de vous retrouver de l'autre côté? Mais si vous persévérez, vous verrez que l'espoir, un éventail de possibilités et la liberté seront au rendez-vous. De la pénurie à l'abondance. Comment savoir si cette nouvelle identité dont je viens de parler a commencé à se mettre en place? Le plus gros changement que vous observerez dès que vous entamerez la construction de votre second cerveau est que, au lieu de voir le monde à travers la lunette de la rareté, vous le verrez à travers celle de l'abondance. Beaucoup trop d'individus essayent de fonctionner dans ce monde nouveau en se fondant sur des hypothèses héritées du passé, à savoir que l'information est rare et qu'il faut donc en acquérir, en consommer et en accumuler le plus possible. Par ailleurs, nous avons été conditionnés à considérer l'information à travers un prisme consumériste. Plus l'on en détient, mieux c'est. On nous a également appris que les informations doivent être jalousement gardées, car quelqu'un pourrait les utiliser contre nous ou voler nos idées, et aussi que notre valeur et notre estime de soi découlent de ce que nous savons et pouvons réciter sur commande. Comme vu au chapitre 4 sur la captation d'informations, la tendance à l'accumulation peut vite devenir une fin en soi, étant donné qu'il est très facile de le faire sans jamais se demander si cela nous sera utile ou bénéfique. Cette consommation indiscriminée de contenu nous amène à considérer chaque mème et chaque message publié sur les médias sociaux avec autant d'intérêt que s'il s'agissait de pensées profondes. Cette attitude est en réalité motivée par la peur de passer à côté d'un fait, d'une idée ou d'une histoire cruciale dont tout le monde parle. Peu importe la quantité d'informations collectées, étant donné que le prisme de la rareté nous fait également croire que celles déjà en notre possession ne doivent pas valoir grand-chose et nous pousse à continuer à chercher à l'extérieur ce qui nous fait défaut à l'intérieur. À l'opposé de cet état d'esprit centré sur la pénurie, il existe un état d'esprit centré sur l'abondance. Il nous permet de voir le monde comme étant plein de choses précieuses et utiles, des idées, des perspectives, des outils, des collaborations et des opportunités. Il nous signale que où que nous regardions, dans les contenus que nous consommons, dans notre réseau social, dans notre corps, nos intuitions et notre propre tête, nous baignons dans une quantité infinie de connaissances incroyablement puissantes. Il nous dit également que nous n'avons pas besoin de tout absorber ou de tout comprendre. Il ne nous faut que quelques graines de sagesse, les plus utiles étant celles qui ont tendance à se retrouver encore et encore en travers de notre chemin. Contentons-nous d'écouter ce que la vie ne cesse d'essayer de nous dire, que nous le voulions ou non. Tel un professeur empathique mais inflexible, la réalité ne plie ni ne cède face à notre volonté. Elle nous apprend patiemment en quoi notre façon de penser est inexacte, quitte à répéter ses leçons plusieurs fois au cours de nos existences. Adopter un état d'esprit centré sur l'abondance signifie cesser de s'accrocher aux choses qui paraissent indispensables à notre survie, mais qui sont, en réalité, inutiles. Cela signifie renoncer à faire un travail de peu de valeur, qui nous procure un faux sentiment de sécurité sans faire appel à ce qu'il y a de meilleur en nous. Cela signifie cesser de perdre notre temps avec des informations sans importance, qui ne font pas de nous de meilleures personnes. Enfin, cela consiste à cesser de craindre l'opinion d'autrui et de vouloir nous en protéger, pour être capable d'accueillir les cadeaux qu'il désire nous faire. De l'obligation au service. Un deuxième changement se produit quand vous commencez à utiliser votre second cerveau, non seulement comme outil de remémoration, mais aussi pour établir des connexions et créer. Au lieu de faire les choses par obligation ou parce que vous vous sentez pressé de le faire, vous les ferez pousser par l'envie de rendre service. Enseigner, faire du mentorat, aider autrui, contribuer. Je crois que, pour la plupart des individus, ce désir est inné et qu'il nous définit fondamentalement en tant qu'humains. Mais j'ai aussi remarqué que beaucoup de gens le mettent sur pause. Ils attendent d'avoir assez de temps, de bande passante, d'expertise ou de ressources. Ce jour semble être sans cesse repoussé alors qu'ils sont pris par un nouveau travail, qu'ils lancent leur carrière, qu'ils ont des enfants ou qu'ils essaient seulement de ne pas perdre pied au quotidien. Rien ne vous oblige à aider autrui. Parfois, rien que s'occuper de soi est difficile. Malgré tout, j'ai souvent remarqué qu'à mesure que les gens accumulent des savoirs dans leur second cerveau, ce désir intérieur de servir autrui refait peu à peu surface. Voyant tout ce qu'ils savent déjà, ils n'ont tout à coup plus de raison d'attendre encore. La raison d'être d'un savoir est d'être partagé. S'il n'a aucun impact positif sur qui que ce soit, y compris sur vous-même, à quoi sert-il ? Apprendre ne devrait donc pas consister à thésauriser des savoirs comme d'aucuns le font avec des pièces d'or, étant donné que c'est la seule ressource qui s'améliore et prend de la valeur à mesure qu'elle se dissémine. Si je partage une nouvelle façon d'aborder votre santé, vos finances, votre entreprise ou votre spiritualité, ce savoir ne perd pas de sa valeur. Bien au contraire. Car à présent, nous pouvons parler le même langage, coordonner nos efforts et partager les progrès faits dans la mise en œuvre de ce savoir. Plus ce dernier se répand, plus il devient puissant. Dans le monde, il y a ainsi des problèmes que vous seul êtes en mesure de résoudre. Des problèmes sociétaux liés à la pauvreté, à l'injustice, à la criminalité. Des problèmes économiques ayant trait aux inégalités sociales, aux déficits en matière d'éducation et de droits des travailleurs. Des problèmes organisationnels d'entreprise concernant la rétention des employés, la culture et la croissance. Des problèmes qui touchent des individus autour de vous et que votre produit ou votre expertise pourrait résoudre en les aidant à mieux communiquer, apprendre ou travailler. Comme le dit Ryder Carroll dans la méthode Bullet Journal, votre perspective singulière peut potentiellement ravauder un accroc dans la vaste étoffe effilochée de l'humanité. Il y a aussi des personnes que vous seul êtes en mesure d'atteindre. Des gens qui n'ont que vous pour les guider. Des gens qui ne savent pas vers où se tourner pour trouver des solutions à des problèmes qu'ils ignorent peut-être même avoir. Vous pouvez être leur guide. Vous pouvez redistribuer une partie de l'attention que vos parents, vos professeurs et vos mentors vous ont prodiguée tout au long de votre vie. Rien qu'avec des mots, vous avez le pouvoir d'ouvrir de nouveaux horizons totalement inimaginables aux individus qui vous entourent. Au départ, votre second cerveau est un système destiné à vous soutenir, vous et vos objectifs. Mais rien ne vous empêche de le mettre au service d'autrui et de ses rêves. Vous avez tout ce qu'il faut pour rendre un peu de ce qui vous a été donné et être une force du bien dans le monde. Tout est affaire de savoir. Et de ce point de vue-là, vous n'aurez qu'à puiser dans vos richesses.